où tu voulais commencer, peut-être
Oui, de toute façon, là, on n'a pas de problème.
Donc, peut-être qu'on fait une première phase où on travaille directement l'intervention de cet après-midi, et puis ensuite, on se garde un peu de temps pour essayer de discuter un petit peu ce qui était dit à la fois ce matin et cet après-midi. Si vous en êtes d'accord, évidemment. Voilà, donc la parole est à la salle. N'hésitez pas. Oui.
Oui, moi, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question qui me catarote depuis le début. C'est qui parle au nom de qui et quel est le discours de légitimation derrière cette volonté de voir perdurer dans le temps ces potagers en ville? À la fois le discours de légitimation des personnes que vous enquêtez, puis le vôtre aussi. Parce qu'en fait, j'ai du mal à cerner, alors j'allais dire... C'est un bien grand mot, la justification scientifique, c'est pas ça, c'est quelle est la place et l'utilité que vous donnez à ces potagers dans votre conception de la ville? Parce qu'en fait, on passe tout de suite à l'objet, et voilà, j'aimerais à la fois comprendre le discours de légitimation et qui parle au nom de qui dans la population des personnes que vous enquêtez, puis aussi vous, la construction même de votre réflexion sur, puisqu'on est sur la question de l'habité, de l'urbanité, quelle est la place, le sens que vous donnez, vous, à ces potagers dans votre conception de la ville, je sais pas, comme chercheur, comme à cheval entre la pratique et la recherche, et peut-être ce petit chaînon manquant dans le propos qui m'intéresse.
Moi, je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui n'a pas été dit, qui est peut-être important, c'est que les gens qui cultivent dans ces potagers ne sont pas préparés à se battre contre l'urbanisation, d'une certaine manière, ne sont pas... c'est pas pour ça qu'ils sont là. Je dirais, ils sont là pour jardiner, pour manger, ou enfin, pour de multiples raisons, dépendent vraiment de chacun. Mais c'est vrai que notre apport, notre contribution par les récits, c'est effectivement ce manque d'histoire, mais c'est aussi peut-être une manière aussi de répondre à la difficulté de se mettre en position de force vis-à-vis de cette urbanisation qui les menacent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément armés. Alors, selon les collectifs, il y a des organisations, il y a des collectifs, oui, selon les collectifs, etc., il y a des... Enfin, Navet est un exemple vraiment frappant de mise en commun d'énergie pour effectivement se mettre en position d'être fort, etc. C'est pas le cas de tous, il y en a aussi qui disparaissent... sans rien dire. Il y en a aussi qui essayent de s'allier avec d'autres, de rentrer dans les processus participatifs. Enfin, il y a mille façons. Il y a aussi un forum qui regroupe les jardins menacés, qui s'est construit, qui a commencé il y a un an, donc qui est aussi neuf. Et je dirais que notre bouquin vient aussi en appui de ça, d'une certaine manière.
Alors, sur la question de qu'est-ce qui nous légitime ou quel est notre... Enfin, moi, je crois que c'est simplement un engagement de chercheur. Moi, j'ai travaillé sur l'urbanisation de Bruxelles, l'extension de Bruxelles. J'ai appris à connaître vraiment la naissance de la machine urbanistique au 19e siècle. On voit les ravages que ça fait. Moi, est-ce que je suis liée au potager? Je suis liée à tout ce qui pourrait démultiplier les territoires en ville. Ça, j'y crois vraiment, vraiment. Et donc, pour moi, faire exister ce livre, c'est faire exister un territoire parmi d'autres. Et c'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile. Je trouve que la recherche n'est pas à la hauteur de la tâche. Soyons très clairs là-dessus. Ce qu'on sort sur les potagers, c'est deux, trois profils types. Celui-là, il le fait parce qu'il veut nourrir sa famille. L'autre le fait parce qu'il aime la nature, etc. C'est en deçà de tout ce qu'on trouve dans ces territoires. Donc, mon engagement, il est là. Mon engagement de chercheur, c'est de démultiplier les territoires, là où très souvent, on voit que le territoire qui nous est proposé est-ce qu'il faut plus de légitimité que ça? Évidemment, on se pose la question de qui parle à la place de qui. Donc ça peut-être qu'on peut enchaîner là-dessus. Quelle est la où est-ce que le relais passe? Ça, je ne sais pas si toi tu veux en dire quelque chose.
Ouais, on la joue effectivement. Moi, c'est la première fois que je me trouve sur un terrain contemporain. Et je débarque sur ce terrain-là et j'ai affaire à une intelligence d'occupation de terrain, toute une série de pratiques dont je ne savais rien. Et assez rapidement, je suis embarqué, en fait. Je ne peux pas. Je suis concerné. J'ai mis les pieds là. Ce terrain m'a intéressé. Au départ, je devais faire d'ailleurs... la recherche était plus générale sur, sur les potagers aux abords des chemins de fer. En fait, non, je suis resté là parce qu'il y avait des enjeux. Et en gros, et j'ai été embarqué en fait, dans ces enjeux-là. Et ces enjeux-là, effectivement, ont d'emblée compté pour moi. Parce que d'une part... J'ai réveillé quelque chose en allant sur ces terrains-là, des attentes, des outils, etc. Et j'ai appris énormément de choses. Donc il y a une sorte de... Je leur étais redevable de tout ce qu'ils m'apprenaient sur ce que vous pouvez vouloir dire occuper un territoire de manière intéressée, intéressante et nouvelle par rapport à ce avec quoi je venais. Et donc je veux dire quoi
Tu leur es redevable,
Je leur suis redevable de ça. Et non, je voulais rajouter un autre truc. Bon, toujours est-il qu'en fait, la question de qui parle... Enfin, je très rapidement, la fonction de relayeur en tant que chercheur, c'est quasiment imposé. Et je ne me voyais mal faire autre chose, en fait, que ça. Parce que sinon, il y avait quelque chose... Effectivement, là, on fait exister des choses qui enfin, je ne vais pas généraliser trop rapidement, mais qui sont rarement discutées lorsqu'on parle de sciences sociales, etc. Mais je ne pouvais pas échapper en fait à cette situation de relayeur, non seulement parce que j'étais intéressé et qu'il m'avait intéressé à cette et je crois que il y avait une sorte de pacte en fait qui était voilà, et c'est quelque chose de cet ordre là et après qui parle à la place de qui, c'est pas si c'est pas le cas pour tous les c'est pas le cas pour tous les récits, mais les récits enfin moi par exemple je les fais circuler chez ceux avec qui j'ai travaillé sur ces terrains, c'est-à-dire qu'ils ont ils interviennent aussi sur ces récits. Comment j'ai mis en récit cette histoire-là? Qu'est-ce qui les dérange? Qu'est-ce qui les dérange pas? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui n'existe pas? Est-ce qu'il y a des choses? Donc c'est un travail d'équipe aussi, d'une certaine façon, avec ceux avec qui on a travaillé sur cette terre.
Oui, c'est aussi l'idée que les récits s'incarnent. On parlait de figures tout à l'heure. On a une image, une typologie d'acteurs. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui donne envie d'en savoir davantage derrière cette mise en récit.
Mais c'est clair que nous, on n'est pas... je rejoins ce que Béni disait, on est très mal à l'aise avec les typologies, les catégories. On n'a vraiment pas envie d'aller avec des catégories surplombantes sur ces trucs-là, parce qu'on a l'impression qu'on réduit, évidemment... en sciences sociales, c'est vraiment un truisme que je dis que quand on vient avec des catégories et des types.
Mais c'est pas des catégories inductives.
Oui, mais on voulait pas aller avec ça. Et du coup, de choisir ces formes sur le récit, sur l'amplification de la parole, sur la mise en lien, etc., c'est effectivement faire différemment une recherche ou une recherche-action. C'est même pas action, mais en tout cas, c'est. Il y a quelque chose d'hybride qui est totalement assumé et revendiqué par l'équipe qui est ici et qui est à l'œuvre dans le rendu qu'on fait de ces fouilles qui sont à la fois des fouilles sur le présent et sur le passé. Et je pense que si je veux en ajouter une couche, puisque c'est la tradition ici, c'est, je pense que ce qui nous a la légitimation, je ne sais pas si je suis sûre de comprendre le terme, en tout cas dans le sens où tu l'amènes, c'est qu'il y a quand même il y a quelque chose de choquant à Bruxelles, et je pense que Bruxelles n'est pas une exception à ce qui est en train de se passer, sur le discours sur l'agriculture urbaine, qui est normalisatrice. Qui est que sur le discours entrepreneurial, ça n'est que ça quoi, le discours entrepreneurial, bon parfois un peu de lien social, c'est vrai, ou le lien social, mais ça n'est que ça. Et nous on trouvait que c'était d'abord c'est une très grande pauvreté, ça a un effet de normalisation des pratiques parce que finalement on l'incorpore, on se dit qu'il n'y a plus que ça qui est possible, et c'est d'une horrible injustice, c'est une injustice sociale et environnementale terrible. Donc alors, je ne sais pas si c'est suffisant pour légitimer. la recherche ou le parcours qu'on fait, mais ça vient de là aussi, quoi. Et aussi par rapport à des militants, parce qu'on peut aussi être en porte-à-faux par rapport à des militants jeunes qui revendiquent l'agriculture urbaine aujourd'hui comme une façon de nourrir la ville autrement, etc. Oui, hein, donc là aussi, l'idée, c'est d'être dans des dialogues conflictuels, quoi, de dire... ben non, nous, on voit autre chose dans ce que vous êtes en train de faire, et c'est pas pour ça qu'on peut pas construire, etc., avec vous ou avec un ensemble de personnes, mais c'est essayer de repeupler, enfin, faire de l'écologie, c'est-à-dire repeupler les choses, complexifier les systèmes, c'est ça l'enjeu aussi de ce type de recherche, je pense. Et, de faire de l'hybride, quoi, parce que l'écologie, c'est ça aussi.
Dire aussi peut-être qu'on est une équipe hybride à la base, dans le sens où, enfin, je sais pas, moi par exemple, j'ai pas toujours fait de la recherche et je viens du jardin justement. Donc, c'est aussi c'est aussi quelque chose qui fait que la position de l'équipe par rapport au réel est aussi un petit peu modifiée par. Par le fait qu'on est au moins deux à être réellement en prise avec cette réalité-là par nos pratiques.
Voilà. Merci pour votre présentation. J'ai deux questions un peu différentes à vous poser. La première, ça porte sur un peu le cadre de cette enquête et de cette commande. Y a-t-il déjà une commande à la base d'où est émergée? Si vous pouviez faire aussi un peu la généalogie de cette recherche et nous parler de ce que vous envisagez de restitution aux acteurs. On a bien compris que c'était un des moteurs de votre travail, de rendre justice à ces acteurs et donc d'écrire ces histoires. Est-ce que vous envisagez des dispositifs particuliers de restitution, des présentations de vos travaux, des récits directement dans les jardins? Est-ce qu'il y a ce type de dispositif de prévu? Et la deuxième question porte plutôt sur l'objet. Quand on voyait votre carte et puis vos différents récits, moi, ce que j'en ai compris, c'est donc que une partie en tout cas des jardins les plus importants en termes de surface et en termes de longévité se situaient du coup à l'extérieur ou plutôt en périphérie de la ville. Ce qui peut se comprendre dans le cadre d'une. Faut peut-être pas dire gentrification, mais en tout cas d'une une récupération du centre-ville progressivement par les activités de la ville, mais du coup, les deux tiers, il me semble, ou plus des deux tiers des nouveaux jardins, enfin des jardins, sont des jardins qui ont 10 ans à peu près. Donc je voulais savoir s'il y avait une spécificité particulière à ces jardins-là, du coup, de l'hypercentre, par rapport à ceux que vous avez pu présenter dans vos récits, sachant que pour moi, l'idée que je me fais, en tout cas, la représentation que je me fais de ce type de jardin dans d'autres villes, que ce soit à Berlin, à Paris ou autre, c'est... voilà, des choses qui peuvent être mises dans des espaces temporaires en attendant d'une autre allocation, sur des toits, sur des toits de jardin. Donc, est-ce que ça amène à des pratiques un peu différentes? Vous avez parlé de la vision très entrepreneuriale, du coup, de cette pratique. Est-ce que ça se retrouve plus dans ces cas-là qu'ailleurs ou non?
Qui commence?
Alors sur l'objet, les différents, je me souviens qu'avec Louise Kesselot, donc qui est la géographe, on a fait plein d'essais parce qu'on avait une base de données avec plein d'autres données pour voir si effectivement il y avait une spécificité. Est-ce que c'est plutôt collectif ou parcelle individuelle? Est-ce que c'est plutôt qui est propriétaire? Est-ce que c'est plutôt ceci, c'est plutôt cela? Est-ce que c'est du temporaire? Est-ce que c'est du contrat? Est-ce que c'est du ceci? Eh ben, on n'y est pas arrivé. Avoir quelque chose dont on pouvait dire « Ah ben oui, effectivement, au centre, c'est plutôt ça, et en périphérie, c'est plutôt ça. » Parce que, voilà, nous, on a abandonné de faire... on a des récits qui sont au centre-ville aussi, donc nos récits sont un peu partout. Donc ça, c'est pour l'objet, et on n'a pas plus poussé que ça, même si, évidemment, pour les raisons évoquées, on peut s'imaginer que qu'ils sont plus hypothéqués et qu'ils sont plus mis sous pression.
Ils sont en tout cas plus petits.
Ils sont plus petits.
Et ça, c'est certain.
Largement.
Et ils sont récents.
Et plus récents.
Voilà.
Et souvent en bac. Souvent en bac ou en toiture, effectivement. Mais, ouais. Mais très, très, très peu en pleine terre. Mais c'est pas non plus. Il y a des exceptions.
Est-ce qu'ils sont cultivés différemment? Est-ce que c'est un autre type de population ou de rapport au jardin qui se dégage?
En fait, ce n'est pas vraiment une question qu'on s'est posée. Donc, à partir du moment où on a une base de données, puis on fait les variables, on fait les... Hein, à un moment donné, on ne le trouve pas, on va dans un lieu et ces questions-là s'évaporent. Vous voyez ce que je veux dire? On a enquêté au milieu d'un tout petit et toute la question a été ce jardin-là. La question qui se pose, c'est pas est-ce que c'est contrat par contrat, etc., etc., toutes les variables qu'on pouvait imaginer, est-ce que c'est plus que des... C'est plutôt, là, c'était la question, qu'est-ce qui s'y passe? C'est à nouveau l'intrigue. Chacun de ces points tient une intrigue. Et l'approche écologique, c'est ça. C'est et donc, c'est pas que je refuse votre question. C'est juste, vous voyez, quand vous insistez, vous me mettez dans une situation où finalement, on va typologiser. Ouais, c'est plutôt ceci, c'est plutôt cela. Les variables, on les a. On a une base de données très riche, au fait, sur 2013, parce qu'ils ont fait un état des lieux. C'est la seule base de données sur Bruxelles qu'on a. Et puis voilà. Enfin, je suis peut-être un peu trop drastique, mais
évident que même sans typologiser, il est évident que sur un petit jardin qui fait la taille de cette salle, les pratiques sont tout à fait différentes dans un jardin où chaque personne a une demi-salle.
Oui.
Donc c'est clair que mais bon, c'est vrai que niveau centre-ville, pas centre-ville, bon, ce qui se passe c'est que le centre-ville est tout simplement beaucoup plus dense. Et voilà, plus causé souvent, mais voilà.
On va, parce que même quand on est hyper confortable,
ouais, ouais, il faut
quand même
voilà,
quand même
tout le temps pour la première. Ah oui, peut-être le cadre.
Ouais. On fait un petit tour de quelques questions et puis après on enchaîne sur une discussion plus générale avec tout le monde autour de la table.
Donc je pose une question. En fait, moi, je trouve que, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, enfin, je réfléchis en même temps à ce que vous venez de nous présenter, mais il me semble que dans ce que vous présentez, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est, au fond, le rappel d'une certaine évidence sensible, et que la recherche perd un peu. Cette évidence sensible, c'est finalement, ça fait longtemps qu'on est dans la catastrophe. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, se rappelle aussi, enfin, n'est pas si évidente en fait. En tout cas, avec les discours médiés par l'expertise et tout, c'est que finalement, ça fait longtemps qu'on est dans la catastrophe. Notamment, vous l'associez très clairement à l'industrialisation, 19e siècle, l'urbanisation. Et en fait, je trouve que c'est le rappel d'une évidence qui est vraiment bénéfique. Parce que, déjà, elle décale par rapport à un courant de recherche qui est très à la mode aujourd'hui, qui est l'histoire environnementale, qui s'attache à la critique. En fait, on nous dit « Ah, ça fait longtemps qu'on critique le développement économique, industriel. » Et vous, il me semble que vous décalez au sens où vous nous dites « Attention, non seulement ça fait longtemps qu'on est dans la catastrophe, mais ça fait longtemps que des gens développent des arts de vivre dans la catastrophe. » Et en tout cas, les trois terrains que vous avez présentés, finalement, ils ont en tout cas ces trois terrains que vous avez choisis. Et d'ailleurs, à la conclusion, on insistait sur cette question du présent, du passé, du futur, qu'ils ont tous une inscription historique profonde. Quoi. Et donc, ça fait longtemps qu'on vit dans la catastrophe, et ça fait longtemps qu'il y a des arts de vivre dans cette situation catastrophique. Et en fait, il me semble que c'est une piste de recherche que vous ouvrez à travers votre travail, qui me semble très prometteuse, quoi, très fertile, c'est de savoir, mais en fait, que peut-on apprendre, y compris d'ailleurs de la deuxième expérience, là, du coin de terre, où, hein, c'est ça, où même toi, Alexis, de ce que tu as raconté, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, finalement, en fait, quelle transmission s'est construite sur comment vivre, quels arts de vivre dans la catastrophe, y compris dans des contextes aussi, parce que bon, je vois bien, en France, il y a le même genre de truc, les jardins ouvriers, j'ai la tradition, c'est à peu près la même, le même genre de règles dans les jardins ouvriers, et pour y avoir été un peu, avoir pratiqué moi aussi un peu dans ces jardins ouvriers, il s'y passe plein de choses, quoi, effectivement, et c'est extrêmement intéressant. On peut le réduire à l'héritage paternaliste, à la hiérarchie qui subsiste, au clos, ça serait vraiment rater complètement ce qui s'y passe, quoi. Donc du coup, il semble que c'est... Bon, c'est pas vraiment une question, en fait. C'est plutôt un appel d'air après votre exposé, c'est de dire, ah ben tiens, ça nous rappelle que cette histoire, elle est ancienne, quoi, et puis que la question, c'est pas tellement de le critiquer, de dire, ah non, mais puisque finalement, les histoires, je parle de critique de... l'histoire de environnementale, elle nous dit, ah ben, elle nous rappelle des vieilles critiques, quoi. C'est comment est-ce que ça fait longtemps que des gens développent des manières de vivre dans la catastrophe.
Alors, du coup, est-ce que cette question de la catastrophe en tant que catégorie d'analyse est pertinente, quoi?
Je ne sais pas si c'est vraiment une catégorie d'analyse, donc pour dire est-ce que donc on aurait des traits de la catastrophe, on la qualifie et tout ça, et puis on vérifie si effectivement tout y est ou tout n'y est pas, et puis on pourrait dire ce l'est ou ce ne l'est pas. Je crois que c'est si on se pense dans la catastrophe, si on pense ceci comme catastrophe qui dure, etc., qu'est-ce que ça permet de voir ou de ne pas voir. C'est assez. C'est un peu comme des gestes. Supposons que, appelons ceci, ça, alors qu'est-ce que ça permet? Et si ça ne permet pas, ben pour moi, on le laisse tomber. Si ça permet de penser des choses, alors on le maintient. Ce ne sera jamais, selon moi, une catégorie analytique. Enfin, je crois que pas que ce soit.
Oui. Soit dans les récits, dans les restitutions, vous avez cette. Disons, est-ce que les acteurs se pensent travailler avec un sol catastrophique, avec des conditions de subsistance, enfin, une fragilité catastrophique, ou est-ce que on est plutôt dans l'adaptation permanente où finalement ben, on s'ajuste? Et là, on n'est pas dans une appréhension du monde catastrophiste.
C'est-à-dire qu'en face, il y a quand même un certain rouleau compresseur que Dominique a bien raconté, qui est l'avancée de l'urbanisation sur des terres non bâties. Il y a d'une part ça, mais par rapport à cette question de la catastrophe, moi je pense tout de suite aussi à cette question de la transition que vous avez vous-même posée.
On l'interroge justement, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas comme un donné, on le met à l'épreuve.
Tout à fait.
Je pose aussi cette question.
Mais cette question de la catastrophe est aussi. La question de la transition se pense par rapport à une catastrophe. Par rapport à une catastrophe à venir, par rapport à la fin du pétrole, par rapport à un réchauffement climatique, par rapport à cette question qu'on va dans le mur. Et elle se pense même à partir de là. Il faut d'abord se dire qu'on va dans le mur pour pouvoir se dire qu'on a besoin de transition. Or, les acteurs dont on parle ne se situent pas du tout dans la transition pour la plupart. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui se pensent dans cette transition, mais ce n'est pas du tout, en tout cas pas l'ensemble des personnes qu'on a rencontrées. Mais c'est vrai que cet artifice de se dire, en fait, plutôt que de penser quelque chose qui va venir ou dont il faudrait prendre conscience, donc on retombe dans un côté justement moralisateur, etc., si on se dit que finalement on y est, nos terres sont polluées, notre ville est irrespirable, compliquée à vivre, etc., alors ça nous permet de reposer les termes du problème, quoi. C'est un artifice. Plus que moi la catastrophe, ça me plaît pas particulièrement comme terme. C'est le côté un peu apocalyptique comme ça.
Non, je dis ça parce que. Enfin, non, vous pouvez parler.
Ouais. Je peux parler après.
Non, mais.
Moi, j'ai... Okay. Alors, moi, j'aime bien la catastrophe. Mais parce que. Effectivement, c'est pas une catégorie d'analyse, je pense que c'est un retour des structures mythiques, y compris dans les sciences sociales, y compris dans les sciences tout court, les sciences dures. Et donc, c'est le retour du monde, quoi. Là où normalement les choses devaient avancer et se gérer, donc il devait y avoir une société, puis ce truc-là se délitant, Margaret Thatcher en ayant fait son deuil de manière catégorique en disant en fait Il n'y a pas de telle chose que la société, mais les affaires. Pour les gens qui ne vivent pas du bon côté des affaires, bah, il faut trouver autre chose. Donc là, tu retrouves le monde, et peut-être que la question des usages et des trucs dans le passé... Je sais pas comment dire. Je crois que à chaque fois c'est enfin le truc de l'épaisseur du temps. Je trouve ça super intéressant parce que si, quand il se passe suffisamment de choses quelque part, en bien ou en mal, d'un coup on est capable d'aller projeter un passé depuis lequel on va trouver quelque chose. Que ce soit des communaux, que ce soit une tradition de, enfin c'est pas tout, que ce soit une pollution absolument rare et donc. Et donc la catastrophe, pour moi, ça a à voir aussi avec ce trouage dans l'épaisseur historique et des espèces d'effets de retour.
Voilà. Territoire dense qui construit son histoire. Quoi. Territoire dense, il reconstruit une histoire dense.
Parce que c'est pas une apocalypse, c'est ça. Quoi. C'est ce genre, nous vivons la fin du temps. C'est pas si mal, pour moi. La remarque que je voulais faire avant, c'était... je me suis retrouvé souvent dans cette position de... d'être mis en accusation, plus ou moins gentiment, là c'était gentiment, mais la fois où ça m'est arrivé, c'était pas gentil. Mais en fait, qui parle? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les acteurs? Truc, objet? Et je crois que c'est très lié aux tentatives de faire un alliage sulfureux entre sociologie pragmatique et terrain de la radicalité politique. Quoi. Et dès qu'il se passe ça, il y a ce brouillage et on a des discussions qui reviennent, qui ont souvent les mêmes trucs. Et je pense qu'il y a peut-être un effet de... Enfin, moi, ce qui m'a troublé... Enfin, comment dire, j'ai pas de problème avec la sociologie partisane. J'ai pas de problème à considérer que les enquêtes ouvrières, par exemple, étaient des enquêtes. En plus, je trouve que c'est très proche. En fait, pour moi, là, vous avez fait une enquête potagère. De la même manière qu'on peut parler d'enquête ouvrière, donc c'est-à-dire quelle est la composition de classe, mais au sens où... lecture tactique, qui est l'ennemi, qui est le... Enfin, lecture... qui est l'ennemi, qui est l'ami, machin... Et avec pour enjeu, donc là où l'enjeu c'était la construction du pouvoir ouvrier, là c'est la construction du contre-pouvoir potager, parce qu'on est un peu sur un truc défensif. Par contre, effectivement, peut-être que l'effet de... Le truc curieux, par exemple, c'était pour l'intervention concernant ces fameux jardins ouvriers un peu classiques. Là, il y avait une série de préventions dont je ne comprenais pas ce qu'elles venaient faire. Si l'objet, c'est la construction d'un contre-pouvoir potager, on peut dire qu'il a été construit effectivement à cet endroit. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu toute une série de précautions prises sur le fait que c'était hiérarchisé, que c'était sans doute catholique
de votre part ? Dans la façon de le raconter.
Voilà. Ouais, ouais. Ma question, elle serait là-dessus.
Oui.
Voilà.
Parce qu'on a été perturbé, et peut-être qu'on doit passer un peu au-delà, mais on a été perturbé au début de... Donc, enfin, il faut, juste par rapport à cette question de longévité, il faut bien savoir, donc peut-être que ça revient sur le cadre, il y a eu un appel, nous on a rentré un dossier plutôt sur l'Interland et Bruxelles, maraîchage, alimentation, etc. Et puis, pour ma part, j'ai découvert la situation au moment où on a commencé à travailler et on a été pris dans cette difficulté. Et alors, de se retrouver dans une situation où on se dit, ah, mais ceux-là, ils ont réussi à se maintenir. Ah, mais à quel prix ? Ça a été pas si évident que ça, puisque c'est un des premiers terrains qu'on a fait. Maintenant, on en a beaucoup plus, et donc peut-être qu'on devrait aller revisiter le premier et dire, arrêtons toutes ces précautions, c'est une force, ce règlement d'ordre intérieur, ou cette hiérarchie, etc. Mais à ce moment-là, c'était le seul exemple qu'on avait comme quelque chose qui avait su se maintenir. Et je me demande s'il n'y a pas un peu cette réticence du début qui était tous ceux qu'on trouve un peu sympas, n'était pas celui qui dirait, c'est celui où on ne voudrait pas nécessairement être.
Sinon, donc voilà, on doit expliciter qu'est-ce qui. Et là, il y a une question de recherche sur la sympathie.
Ouais,
et
ouais, ouais, ouais.
Et qui mérite d'être posée, mais dans ces cas-là, il faut en parler pour de l'autre.
Ouais, tout à fait.
Je pense que c'est aussi justement par rapport à des questions. Enfin, c'est une excellente question. Ouais. C'est des questions de. Mais là aussi, les praticiennes pourraient avoir un self, mais de pratique de la terre. C'est-à-dire que les pratiques de la terre qui sont portées par ces potagers-là, c'est pas la sympathie ou l'antipathie par rapport aux personnes, bien sûr que non, ni même par rapport à l'initiative elle-même. C'est vraiment, je pense, c'est des pratiques de la terre avec lesquelles on a éventuellement du mal, quoi. Parce qu'on est, enfin,
parce qu'on est, on est pétri d'une histoire plus récente qui est aussi faite d'innovation, mais au sens neutre du terme, c'est-à-dire des choses nouvelles qui arrivent dans les pratiques potagères. Et ça, à travers un des récits qui est l'histoire, enfin, l'interview d'une personne qui a 83 ans et qui fait du potager partout où elle va depuis qu'elle est née, ou à peu près, enfin, je caricature. Et c'est super intéressant parce qu'elle dit elle-même, moi, j'ai pratiqué comme on me l'avait appris dans les petits villages de Wallonie, donc pour le coup pas à Bruxelles, c'est-à-dire des méthodes qu'aujourd'hui on qualifierait de destructrices par rapport au sol, en fait. Et puis elle dit, mais dans le potager aujourd'hui, et là au sud de Bruxelles, qui est un potager où on a aussi été, on essaye des pratiques qui viennent d'Amérique centrale, le Chinampas, enfin non, des nouvelles pratiques qui prennent soin du sol. Et donc je pense que la simple, enfin, en tout cas de mon point de vue, mais il y en a peut-être d'autres, mon point de vue c'est ça. C'est pas par rapport ni aux personnes, ni à l'histoire, c'est vraiment par rapport aux pratiques de la terre. Et c'est, je pense que personnellement c'est de là où me vient la...
Je sais une chose que je voudrais rajouter, les arts de vivre tout autant, je trouve que l'ennemi, il faut le rendre neutre, enfin d'une certaine façon pas moral, éthique. Je crois que les arts de vivre, il y aurait à faire exactement la même chose, de s'y maîtriser. Mmh. Et alors, ça nous laisserait, ça laisserait tomber tout ça. C'est, voilà, ça maintient. Mmh. Donc, nous, ça nous intéresse, point barre aussi. Mmh. Mais je trouve l'idée de, oui, aussi, de, du rapport à la terre.
De manière, l'intérêt de la catégorie de catastrophe, c'est de suspendre la question de l'ennemi, mais ne plus en faire...
Ouais.
Puisqu'on ne fait plus face à un ennemi qui serait avec des attributs, qui serait le capitalisme, l'industrie, le complexe militaro-industriel, j'en sais rien en fait.
Ouais.
Là, on est dedans.
Ouais.
Oui, non, mais enfin.
Pas sur les potagers, vous
savez. Oui, bah, oui, ou même si tu y fais face, tu y fais face dans la situation avec tout ce qu'elle a de compliqué. Quoi.
Ouais.
Et que du coup, c'est ce qui permet, c'est pas. C'est laisser tomber cette manière-là, c'est ce qui permet de reprendre prise en fait, sur ce qui t'arrive. C'est pas de dire il n'y a plus d'ennemis, c'est de dire. En tout cas, il ne nous fait pas face comme une entité bien unifiée, bien identifiée, bien.
Mais c'est ce qui nous permet effectivement de faire éventuellement alliance avec ce type de potager qui en fait d'une certaine manière on fait toute une série de compromis hein, parce que tout, en fait cette longévité c'est le résultat aussi de s'être inscrit dans tous les congés pendant la guerre, les programmes de secours sous l'occupation allemande, le clinage de la ville, des taudis, etc. Donc, tout un tas aussi de processus d'adaptation à la demande publique. Voilà, donc c'est. Je crois que c'est. Mais l'ambivalence de. Je crois qu'il y a vraiment une ambivalence dans notre rapport avec ce terrain-là qui
peut-être
aussi levé.